Bonjour à tous, bienvenue dans l'Esprit public, une heure pour décrypter l'actualité politique et géopolitique de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, la journaliste et essayiste Christine Ockrent, l'économiste Daniel Cohen et nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de l'IFRI, l'Institut des Relations Internationales, Thomas Gomard. Bienvenue.
Merci.
Au sommaire de ce dimanche 29 septembre, Jacques Chirac ou l'esprit français, l'Assemblée générale des Nations unies au chevet du climat, Dr Macron et Miss Greta Thunberg, mais aussi l'échec d'un dialogue Washington-Téhéran et cette question, que veut l'Iran ? La pluie n'arrête pas ce matin, ces Français qui veulent aller se recueillir devant le cercueil de Jacques Chirac aux Invalides. Un hommage populaire qui devrait se poursuivre jusque dans la nuit, tandis que depuis jeudi, des milliers de personnes se sont déjà rendues à l'Élysée pour noircir de messages une trentaine de registres mis à disposition. Affection nationale pour celui qui a joué les premiers rôles sur la scène politique française pendant près d'un demi-siècle, notamment comme député de Corrèze et maire de Paris, à une époque où le cumul des mandats, loin d'être condamné, faisait quasiment partie du cursus politique, offrant à celui qui les exerçait une excellente connaissance de la France, mais avec d'autres dérives, à commencer par celle des emplois fictifs. Et puis Chirac était devenu le président Chirac avec deux mandats, une cohabitation et un bilan présidentiel mince, disaient ses détracteurs, sans doute parce que le chiracisme se définissait aussi comme un refus de bousculer la société française par des réformes trop audacieuse, le chiracisme ou cette prudence très paysan corrézien ou très ratsoc de celui qui connaissait mieux que quiconque l'esprit français et ses paradoxes. Entre travaillisme à la française et libéralisme, Chirac ne tranchait pas toujours ou ne craignait jamais de changer d'avis, pro puis anti-Giscard, europhobe avec Marie-France Garraud puis europhile. Plus constant fut le Chirac qui avait en horreur l'extrême droite, plus mémorable fut celui qui prononça le discours du Veldiv, engagea un grand débat sur la laïcité, eut à résoudre la crise des banlieues avec un plan ambitieux de rénovation urbaine. Plus sincère fut le Chirac mettant des moyens inédits dans la lutte contre le cancer et contre l'insécurité routière. Plus courageux fut enfin le Chirac qui osa dire non aux États-Unis pour une intervention sans mandat de l'ONU en Irak. Mais aujourd'hui, ce que les Français retenaient avant tout de leur défunt président, c'était sans doute ce Chirac tellement made in France, ce grand gaillard, hâbleur et râleur qui fumait, mangeait de la tête de veau, croquait des pommes et aimait la bière, les femmes et les infractions à la loi. Jacques Chirac qui devait tant aussi sans doute à sa marionnette des guignols, encore plus française que lui avec ses charentaises, son canapé et ses commentaires devant la télé. Chirac, amateur de gauloiserie et de dérapage, celui du bruit et des odeurs. Chirac si terriblement gaulois, à défaut d'avoir su être parfaitement gaulien.
Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer, de l'étranger, ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. La France, mes chers compatriotes, je l'aime passionnément. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma force à son service, à votre service. Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique, cette France que j'aime autant que je vous aime.
Jacques Chirac annonça aux Français qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat en mars 2007. Christine Ockrent, c'est étonnant depuis jeudi, comme on célèbre un personnage français tout autant qu'un président, qu'un homme d'État.
Oui, un personnage extrêmement français et je crois que cette vague d'affection collective qui nous a tous enveloppés, d'abord chacun se souvient de sa jeunesse ou de son enfance, et puis... Oui, totalement français dans nos propres contradictions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme politique à la longévité sans précédent du XXe siècle. C'est impensable, évidemment, aujourd'hui. Et un homme politique qui a été totalement dans nos contradictions mêmes. C'est-à-dire, on dit qu'on fait et on fait pas. Et ça, on adore. Et c'est d'ailleurs pour ça que, bien des années après, Emmanuel Macron choque tellement, parce que on dit qu'on fait et on fait, ou on veut faire. Et ce que je trouve extraordinaire dans l'éloge, qui probablement va commencer à basculer, parce que une fois l'émotion dissipée, on va commencer à dresser le bilan de ce qui a été fait et de ce qui n'a pas été fait. Mais moi, je trouve que Chirac est vraiment l'ancêtre du « en même temps ». Avec cet adverbe qu'il utilisait sans arrêt, qui était « naturellement ». Donc, on est à droite, on est à gauche, on est au centre, on est en fait ratsoc.
Mais ça, c'est très macronien aussi.
Et donc, on fait une réforme, mais naturellement, on garde ce qui existe, parce qu'on ne va pas le faire. Et il y a là une saveur très particulière. Moi, je ne résiste pas, parce que ça reste quand même une des grandes citations, me semble-t-il, de l'esprit français. Elle n'est pas de Jacques Chirac, elle est d'Henri Queuil, qui est donc cet obscur homme politique radical socialiste de la Troisième République. Et là, je lis la citation, parce qu'il faut qu'elle soit exacte. « Il n'est pas de problème dont une absence de solution ne finisse par venir à bout. » Et sans caricaturer à l'excès, parce que, comme vous l'avez très bien rappelé, Émilie, Jacques Chirac a fait véritablement avancer le pays dans un certain nombre de domaines. Il faut aussi rappeler le handicap, où il a fait des réformes importantes, et le principe de précaution, qui continue de régir énormément de lois, et bien sûr, le discours du Veldiv, dû d'ailleurs, et je crois qu'il faut lui rendre hommage, à la plume de Christine Albanel, parce que c'était en plus un très beau discours. Néanmoins, il me semble qu'on va garder de Jacques Chirac, une fois cette émotion collective dissipée, on va garder cette image, oui, comme vous l'avez dit, d'un homme politique extraordinairement français de la seconde moitié du XXe siècle, où étaient possibles toutes sortes de comportements qui seraient absolument interdits, prohibés aujourd'hui, et qui correspond néanmoins à nos contradictions propres.
Avec, en effet, vous l'avez dit, Christine, ce doux mélange de travaillisme à la française et de libéralisme, Daniel Cohen, qui est beaucoup rappelé depuis jeudi, avec une très grande perplexité des différents commentateurs pour essayer, en effet, de dresser un bilan économique, même si, bien sûr, le clan chiracien arrive groupé, par exemple, pour expliquer que lorsque Jacques Chirac quitte le pouvoir, la France a de meilleurs résultats économiques que l'Allemagne et qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne. Vous, quel bilan économique vous dressez de cette longue présidence Chirac? Ponctué de cohabitation par ailleurs, ce qu'il faut se le dire.
Oui, c'est ça, il faut distinguer le Chirac président du Chirac utile, c'est-à-dire le fait que bon, il est tout de suite à cause de la cohabitation, enfin de cette dissolution manquée et privée de l'exercice effectif du pouvoir. C'est intéressant d'ailleurs de souvenir pourquoi il a appelé cette dissolution, parce qu'à l'époque, les experts de Bercy, du budget, expliquaient que la France allait vers une période de récession et que jamais elle ne pourrait tenir l'objectif des 3% de déficit qui était nécessaire pour se qualifier dans la zone euro. Et donc la dissolution était faite pour préparer ce moment difficile. Elle est ratée et jamais la France n'a connu autant de croissance qu'à partir du moment où cette dissolution a été engagée. Et en fait, il n'y a pas eu de difficulté particulière à qualifier pour les 3%. Donc c'est un moment dont on peut se souvenir avec humour sur la capacité des experts de Bercy de prédire les évolutions économiques.
Parce que c'est la cohabitation avec le Lionel Jospin, c'est la période des 35 heures.
C'est une période incroyable parce que c'est la période où la France a créé le plus d'emplois de tout le XXe siècle. C'est-à-dire que quand on regarde les 5 meilleures années du XXe siècle en matière de création d'emplois, 4 se produisent pendant la période Jospin, Chirac. C'est évidemment une coïncidence parce qu'il y a un rebond, il y a une conjoncture internationale, bon bref, mais en tout cas, ça lui a été enlevé dans son bilan économique. Il n'avait pas fait la dissolution, on aurait pu dire à Chirac, comme ça, la création d'emplois, malheureusement, c'est pas de sa faute.
Même s'il y a eu une légère embellie, je crois, de nouveau sur le chômage en 2005, c'est Dominique de Villepin qui est Premier ministre à l'époque et qui finalement a une approche assez étatiste de l'économie puisqu'il relance les emplois aidés.
Oui, mais c'est pas, je pense pas que ce soit lié à la politique économique qui est menée à ce moment-là. c'est on a la guerre du Golfe ensuite qui crée une récession mondiale et l'économie est ainsi faite qu'il y a des creux et des booms et donc on est dans une période de rebond. À ce moment-là, je vois pas les mesures qui ont été prises qui soient vraiment directement responsables de ça. Les mesures que Villepin voulait prendre, au contraire, ont créé une énorme protestation qui ont finalement obligé d'ailleurs Villepin lui-même à ne pas se présenter. Non, ce qui frappe quand on pense à Chirac, c'est vraiment ce que disait Christine, c'est-à-dire le fait que ce personnage, quand on se tourne vers lui, est beaucoup plus intéressant dans la conquête du pouvoir que dans l'exercice du pouvoir à proprement parler. C'est toutes les trahisons qu'il a dû faire et toutes les trahisons qu'ensuite il a dû subir qui marquent l'histoire de cet homme. On a longtemps cru qu'il était une marionnette tirée par Garot et Juillet, et en fait c'est une marionnette, celle des Guignols, qui l'a sauvé quand il est véritablement seul, sans aucun appui, quand tous ses amis, les Balladur, les Pasqua, les Sarkozy l'ont trahi, et c'est là qu'il trouve cette forme d'humanité qui le rend aimable aux Français et qui le préfère finalement à Balladur, qui reste enfermé dans l'image de la technocratie. Sinon, effectivement aussi, si on regarde ses doctrines économiques, il en a tellement changé de foi qu'on ne sait plus au fond ce qu'il pensait. Il est, quand il s'oppose à Giscard, il est anti-européen. Quand il s'oppose à Mitterrand, il est régagnien, il vient au pouvoir en 86. Enfin, il gagne les législatives de 86 sur un programme inspiré directement de Thatcher et de Reagan. On privatise tout, c'est le libéralisme, et ça lui permet de s'opposer à Mitterrand. Et puis, quand il doit s'opposer à Balladur, finalement, qui est son ennemi à la campagne de 2001-2002, eh bien, il devient socialiste. Il parle de la fracture sociale, et à chaque fois, ça lui donne en effet les moyens, d'une certaine manière, de gagner. Enfin, il s'impose, il perd les élections présidentielles contre Giscard, mais il tue Giscard, il gagne les législatives et finalement il s'impose contre Balladur dans des retournements de postures qui sont extraordinaires. Je crois qu'il y a un parallélisme quand même à faire avec Mitterrand, c'est-à-dire que Mitterrand est quelqu'un qui aussi fascine presque davantage pour tout ce qu'il a dû faire, tous les changements de personnages qu'il a dû endosser pour arriver au pouvoir, qu'à proprement parler l'exercice du pouvoir lui-même. Il y a un autre parallélisme, je crois, à faire, c'est que on a pensé que Mitterrand, finalement, sa grande œuvre, elle était plutôt politique, c'était d'avoir sauvé le Parti Socialiste, d'avoir réconcilié le Parti Socialiste avec l'exercice du pouvoir et gagné cette guerre intestine avec les communistes. Mais à l'heure où le Parti Socialiste a complètement disparu, que reste-t-il de cet héritage de Mitterrand? Même chose pour Giscard. Au fond, il a sauvé, entre guillemets, le gaullisme du giscardisme, qui était la grande menace dans les années 70. À l'heure où le gaullisme a disparu, que reste-t-il de Chirac? Et bien, dans les deux cas, il reste des mesures qui ne sont pas celles auxquelles sans doute il pensait le plus nécessairement, mais des mesures d'une autre nature. L'abolition de la peine de mort pour Mitterrand, c'est la chose qui restera sans doute toujours de cet homme lorsque tout le reste aura été recouvert de poussière. Et pour Chirac, je crois, c'est le Veldiv, parce que là, effectivement, il y a une empreinte dans l'histoire de France qui n'est pas celle pour laquelle il a été élu, mais qui reste quand tout le reste a été submergé.
Monique Cantos-Perber.
Alors, ce qui me frappe, d'une certaine façon, c'est plutôt que l'esprit français dont vous avez parlé, c'est ce style si français de Jacques Chirac, cette façon d'habiter son corps, d'aller vers les autres, la main tendue, toujours tendue, prête à serrer tout ce qu'elle trouve. Comme disait Chevènement, lorsque se réunissait le premier conseil des ministres après l'élection, la victoire socialiste de 1997, Chirac nous a serré la main à tous comme si nous étions les champions qui venaient de remporter le championnat de football. Donc cette espèce de charisme de la, au fond, charisme de la simplicité avec son comment ça va, extrêmement naïf, amical, mais un peu naïf et rusé, bien sûr, cela a été suffisamment souligné. Mais aussi, style français, dans sa résistance à l'adversité, vous vous souvenez peut-être, en tout cas certains d'entre vous, sa marionnette des Guignols en 95, quand il avançait titubant, le dos avec à peu près une vingtaine de poignards dans le dos. C'était assez extraordinaire et il continuait à parler avec
capacité d'endurance.
Cette façon tout à fait caractéristique, cette absence totale de morgue sociale, en tout cas dans son personnage public, aucun semblait-il, rien ne l'arrêtait. Alors, et en même temps, cette forme d'étrange impuissance, une fois que C'est un, une fois que la conquête du pouvoir est réalisée, cette étrange impuissance à en faire quoi que ce soit. Le cas le plus caractéristique, c'est 2002 tout de même. C'était extraordinaire, tout était là, tous les facteurs étaient là, tous les facteurs positifs qui permettent une grande clarté de l'action gouvernementale. Et ce mandat n'a pas évidemment été celui des très grandes réalisations. La corruption aussi, c'est-à-dire qui était vue à l'époque comme une sorte de facilitation. D'une certaine manière, on s'arrange comme on peut, on s'occupe pas des règles, cette espèce d'inconscience qui est très caractéristique de l'époque. Mais pour parler de choses peut-être plus essentielles, mais qui engagent l'idée que j'ai de ce qu'est être français, peut-être je me découvre un peu, cette très forte, en dépit de toutes ces hésitations et ces changements de psyche, cette conviction, cette sorte de certitude liée aux valeurs. On l'a vu illustré dans sa conviction. Il était un abolitionniste, la peine de mort, il ne pouvait pas supporter ça. Et l'accord avec Mitterrand là, a été immédiat. De même, on a rappelé le Vadiv. Et moi, je mentionnerai aussi en 2007, juste avant son départ du pouvoir, l'entrée des justes au Panthéon. Regarde, j'ai relevé la phrase parce qu'elle me paraît extraordinaire, ce bref extrait de son discours. Les valeurs ne sont pas des principes désincarnés. Elles s'imposent quand une situation concrète se présente et que l'on sait ouvrir les yeux. Cette capacité d'ouvrir les yeux, d'une certaine manière, il pouvait l'incarner. Et assez français aussi dans sa manière de considérer l'Europe. Au fond, il n'avait pas de conviction européenne profondément ancrée en lui. Mais il a très vite compris, après l'appel de Cochin, là il y a eu quand même un changement de ligne.
En 1979,
que l'Europe serait le créneau qui lui permettrait d'exercer de manière un peu plus responsable le pouvoir. Alors, si vous voulez, un dernier mot sur pourquoi une telle peine, d'une certaine façon. Je suis, à vrai dire, émue et frappée par cette sorte d'affliction nationale. Et il me semble qu'au-delà de l'admiration pour l'homme, il y a aussi une certaine nostalgie d'une façon de faire de la politique. Vous vous rappelez, vous venez juste de l'entendre, mes chers compatriotes. C'est extraordinaire, plus personne ne s'adresse aux Français de cette façon-là. Mes chers compatriotes, son souci pour les conditions de vie des Français, la sécurité routière, le handicap, le cancer aussi.
Vous voulez dire une sorte d'empathie qui n'existerait plus aujourd'hui ?
En tout cas, que les Français reconnaissaient comme tels. Ils se sentaient en quelque sorte véritablement les interlocuteurs. Qui est d'une certaine façon enraciné dans la pratique du pouvoir politique, vu d'abord comme un pouvoir local. C'est la manière corésienne de faire de la politique. D'ailleurs, Hollande l'illustrait aussi d'une certaine façon. Avant les procédures, avant, toujours un peu transgressif, vous vous rappelez, quand il passait au-dessus du portillon du métro, ce que peut-être chacun a envie de faire, mais ne fait pas, bien sûr.
On a aussi beaucoup dit que c'est parce qu'il ne savait pas utiliser la barrière du métro, qu'il n'avait pas compris qu'il fallait mettre un ticket
peut-être
dedans.
Pour un mode d'avant, parce que je vois que même la moyenne d'âge de ceux qui vont se recueillir est assez élevée. Avant le management public, avant la normalisation des comportements politiques, avant les media training, avant les forces de sécurité partout. Et aussi, une sorte d'époque d'innocence. Hein, où on vantait le productivisme, on faisait des essais nucléaires, on s'adressait à une jeune fille en lui disant « ma petite », etc. Toutes sortes de choses, évidemment, qui ont disparu. Aujourd'hui, où nous avons acquis, et c'est vraiment une condition réversible, la conscience des risques, des menaces, et surtout la conscience que derrière cette extraordinaire familiarité sociale, il y a des rapports de pouvoir dissimulés tout à fait redoutables.
Alors, je ne sais pas si Thomas Gomard partage votre nostalgie, Monique Cantos-Pervert. En tout cas, quel est votre regard ?
C'est celle des Français. Je pense que
vous avez fort bien porté et analysé alors ce matin dans ce studio. C'est vrai, Thomas Gomard, qu'on a eu aussi depuis jeudi, j'allais dire, le kaléidoscope diplomatique de l'action de Jacques Chirac lorsqu'il était président. Alors, on a eu plusieurs images. On a eu le Chirac, meilleur ami du monde arabe. On a eu l'engagement précurseur sur le climat. On a en effet souligné un engagement un peu tiède sur l'Europe. On a rappelé aussi Chirac l'Africain, même si c'était davantage une tendance un peu France-Afrique que réellement une empathie ou une très bonne connaissance de comment allait évoluer le continent africain. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une diplomatie chiracienne spécifique, puisqu'on a du mal là aujourd'hui à définir une thèse, une pratique du pouvoir chiracienne?
Oui, je pense qu'il y a, ce qui marquera son action en politique étrangère, c'est l'opposition à l'intervention anglo-américaine en Irak 2003. En 2003, parce qu'il y a eu un retentissement là, international et national extrêmement important, et à mon avis, c'est ce que l'on retiendra. Mais c'est une mémoire un peu paradoxale, parce que moi, ce qui me frappe dans l'action de Jacques Chirac, dans ce qu'il leur a laissé en matière de politique extérieure, c'est probablement d'avoir reconfiguré les relations entre l'outil militaire et la diplomatie. Je m'explique, ces deux premières décisions, c'est la reprise des essais nucléaires et c'est la reprise d'un pont à Sarajevo de vive force, qui marque vraiment une inflexion en fait dans la manière dont nous engageons nos militaires, qui étaient dans le cadre d'opérations de maintien de la paix, sous mandat des Nations Unies, très exposés. Et il avait servi comme officier de cavalerie en Algérie, et c'était absolument insupportable pour lui de voir des militaires humiliés comme ils l'ont été. Et ça annonce, en réalité, de mon point de vue, 95, un durcissement ensuite de nos interventions extérieures. Le paradoxe, c'est qu'on retient le Chirac qui ne s'engage pas en Irak, alors même que sa reconfiguration de l'outil militaire avec la professionnalisation, qui, j'ouvre une parenthèse, marque à mon avis une cassure très profonde avec l'Allemagne, parce que ça n'avait pas du tout été préparé avec le partenaire allemand, prépare en fait nos forces à faire ensuite beaucoup d'interventions militaires. C'est lui qui va aller en Afghanistan. C'est lui qui aussi pendant le Kosovo, autoriser les frappes sans mandat des Nations Unies.
Sans mandat.
Voilà, sans mandat. Et donc, on a quelque chose de très paradoxal qui se joue avec Jacques Chirac, c'est que nous allons retenir la non-intervention, l'alignement Paris-Berlin-Moscou contre l'intervention en Irak, alors même qu'il a forgé l'outil qui va ensuite être très utilisé vers en termes d'intervention militaire qui ne vont cesser de se durcir.
On retrouve le Chirac aux différents masques également dans cette diplomatie.
Oui, mais je pense que de ce point de vue-là, il est à la fois, effectivement, on insiste sur la dimension gaullienne du personnage. En réalité, c'est surtout le personnage qui doit mettre en place un système de défense correspondant à une dégradation de l'environnement stratégique post-guerre froide. Et il le fait de manière très décidée en ce qui concerne le passage à l'armée de métier. Et je pense que ça a des incidences effectivement beaucoup plus profondes en réalité.
Il le fait, selon vous, de façon très autonome? C'est-à-dire qu'il y a une pensée autonome de Chirac, diplomate?
J'ai relu là ce qu'écrit le général Bintéja dans son livre. Oui, c'est vraiment une décision
qui prend... C'était son chef d'état-major.
Son chef d'état-major particulier, puis le CEMA. Oui, il le fait de manière tout à fait autonome et contre l'avis des militaires, d'ailleurs, à ce moment-là, parce qu'il a aussi l'enseignement de la première guerre du Koweït, et donc l'envoi d'un contingent un peu à bout de bras de la part des Français. Mais je pense qu'on a là en fait quelque chose d'assez essentiel, parce qu'en réalité nous allons retenir 2003. 2003 est un coup d'éclat diplomatique, mais en réalité qu'est-ce que ça a produit? Ça n'a absolument pas empêché, je dirais, ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous sommes très satisfaits de cet éclat diplomatique, mais en réalité, sur la manière de peser sur le cours des choses, eh bien, ça montrait aussi le peu d'influence française.
Et l'on a aussi beaucoup retenu, bien sûr, « La maison brûle et nous regardons ailleurs », qui a été la phrase fameuse de Jacques Chirac, dont on a souligné à l'époque l'engagement pour le climat. Voilà qui nous ramène à l'autre actualité de la semaine, l'Assemblée générale des Nations Unies et l'urgence climatique au cœur des débats, précisément, avec deux personnages principaux, deux styles, deux écoles au chevet du climat, Dr Macron et Miss Thunberg.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Imaginez comme c'est déplaisant quand on est un jeune chef de l'État français très motivé pour jouer sur la scène internationale les ambassadeurs de l'urgence climatique quand, à beau jour, une jeune militante écologiste accède à la tribune de l'ONU pour vous accuser de violer les droits des enfants en n'agissant pas pour sauver le climat. Aux côtés de 15 autres jeunes, Greta Thunberg a donc déposé cette semaine une plainte inédite devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU contre la France et 4 autres pays, Allemagne, Argentine, Brésil et Turquie, suscitant l'incompréhension de ceux qui estimaient que pointer du doigt comme principaux fauteurs de pollution la France et l'Allemagne, mais pas les États-Unis, pas la Chine, pas l'Inde, soit les trois principaux pollueurs, n'était pas très justifiable. En réalité, on a compris un peu plus tard que Greta et ses conseils juridiques ont décidé d'utiliser une procédure qui ne peut s'exercer que contre des pays qui ont signé les conventions onusiennes des droits de l'enfant. Or, Washington, Pékin et New Delhi n'ont jamais ratifié ces textes. Une bataille juridique, puis surtout tout au long de la semaine, une bataille d'opinion. Avec d'un côté ceux que les larmes de la jeune militante avaient bouleversés, parce qu'ils y lisaient une capacité à percevoir de tout son être et dans sa chair ce que notre époque ne voulait pas regarder en face, et de l'autre ceux qui trouvaient déplaisante, voire exaspérante, cette radicalisation et cette simplification du débat, rappelant que la politique environnementale était un sujet sérieux, un sujet d'adulte qui requiert des choix, des arbitrages, des décisions d'une complexité infinie, sans oublier, dans une catégorie que nous laisserons soigneusement à part, les quelques fâcheux osant des commentaires douteux sur l'autisme de la jeune fille, sans parler des dérapages un peu grivois-séniles de certains sur le thème des petites suédoises. En attendant, que répondre à la question de la semaine au chevet du climat? Quelle thérapie choisir? Celle du docteur Macron ou celle de Miss Thunberg?
You have stolen my dreams.
Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots creux. Et pourtant, je fais partie des privilégiés. Les gens souffrent, meurent, des écosystèmes entiers s'écroulent. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle extinction de masse et tout ce que vous trouvez à dire, c'est parler d'argent et de contes de fées sur la croissance économique. Comment osez-vous ?
J'ai pas le sentiment que le gouvernement français ou le gouvernement allemand aujourd'hui sont en train de bloquer. Quand je vois qu'on va fermer l'ensemble de nos activités charbon, qu'on stoppe l'exploitation d'hydrocarbures, qu'on est en train de bouger, je suis pas sûr que ce soit en effet la voie la plus efficace. Je pense surtout que maintenant, on a besoin que on ait une jeunesse qui nous aide à faire pression sur ceux qui bloquent, en se mobilisant, et qui aussi participe à des actions très concrètes. Il y a des tas d'actions citoyennes qui sont utiles. Là, des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés.
Voilà, et hier samedi, 500 000 personnes ont participé à la grève pour le climat de Montréal, aux côtés de Greta Thunberg, Daniel Cohen. Nous sommes en train de changer le monde, a déclaré la jeune fille. Il y avait Justin Trudeau, d'ailleurs, également, parmi les manifestants, ainsi que tous les leaders des partis politiques. Les écoles, les lycées, les universités étaient fermées hier, tandis que Emmanuel Macron, lui, dit des positions très radicales, c'est de nature à antagoniser nos sociétés. C'est ce qu'il reproche à Greta Thunberg. Comment est-ce que vous regardez cette espèce de binôme qu'on a vu s'installer à l'ONU cette semaine?
Oui, on dit parfois que l'élection de Macron représente un moment gaulliste pour la France, c'est-à-dire il y a un homme au-dessus des partis, et entre lui et les extrêmes, c'est le chaos. Et il y a quelque chose de ça qui est en train de se passer aujourd'hui aussi. En mai 68, le pouvoir gaulliste s'était affronté à un jeune rouquin là, qui incarnait une jeunesse désordonnée, débraillé. Et là, on a un pouvoir qui se confronte à une jeune fille avec des nattes qui, tout d'un coup, le harangue et on peut pas dire le menace, mais le met directement en question. Et dans les deux cas, on voit bien qu'il y a deux choses qui se jouent à la fois. Il y a d'abord, au fond, une accusation du monde des adultes, au nom d'ailleurs de choses sont complètement différentes entre mai 68 et aujourd'hui. En mai 68, il s'agissait plutôt de jouir sans entrave. Aujourd'hui, c'est plutôt un peu le contraire, un appel à la sobriété écologique. Mais le geste est le même. On dénonce le monde des adultes incapables de comprendre les aspirations d'une jeunesse qui, elle, veut se projeter dans le siècle qui vient. Et on a un en même temps qui est difficile à comprendre pour Emmanuel Macron, c'est qu'il y a à la fois une demande d'action immédiate, utile pour reprendre ces termes, et il y a toute une liste de choses que la France ne fait pas et qu'on voudrait qu'elle fasse, l'investissement dans l'isolation thermique, de créer des bornes qui permettent de sortir de la voiture thermique telle qu'elle existe. Bon, on pourrait multiplier vraiment tous les investissements qui sont nécessaires et qui ne sont pas faits, la taxe carbone auquel finalement on a renoncé. Donc il y a toutes sortes de choses très concrètes, de même pour en mai 68, c'était la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, le droit pour les garçons aller dans les chambres des filles, bon, des choses qui sont au niveau, on va dire, d'un réformisme un peu bébête, et aussi, c'est vrai, une critique, on a envie de dire, externe, au nom d'un autre monde plus difficile à cerner, et dans les deux cas, une société post-matérialiste, quelque chose qui ressemble à un appel à sortir de la société telle qu'on la vit. Et la difficulté pour les adultes d'hier comme celle d'aujourd'hui, c'est de comprendre que les deux fonctionnent à la fois. On veut des actions concrètes et on les demande au nom de quelque chose qui est plus indéfinissable. Et c'est très tentant parce qu'il y a quelque chose d'un peu indéfinissable. Elle dit dans son discours, arrêtez vos fairy tales, vos contes de fées d'une croissance perpétuelle. On voit qu'elle vise quelque chose d'autre que simplement les actions qui seraient nécessaires. Mais je pense l'erreur des adultes, c'est de les opposer. C'est de penser que, oui, ils veulent autre chose, donc en fait, ils ne veulent rien. Et d'ailleurs, vous n'aurez rien. Non, bien sûr que non. Il faut comprendre qu'il y a une demande beaucoup plus sourde, mais qui n'est pas du tout contradictoire. Au contraire, il faut en effet rendre droit à ce qui peut être fait, le faire, en sachant que oui, la promesse ne sera jamais suffisante. C'est comme ça, quand on a une jeunesse qui n'aime pas le monde que les adultes lui lèguent. Donc je trouve qu'il y a, dans les propos de Macron, c'est sûr que c'est très désagréable quand on vient à l'ONU en pensant être le réconciliateur du conflit au Moyen-Orient, l'apôtre du monde de demain et de la transition écologique, de s'entendre accuser au nom du droit des enfants et d'être au banc avec la Turquie, je ne sais plus quel autre pays, le Brésil, bon, d'être exactement mis dans le même sac que les autres, mais de fait, la France ne brille pas par les actions qu'elle a prises, à part le nucléaire qui lui permet, bon, depuis longtemps, d'avoir moins d'émissions de CO2, j'ajoute moins d'émissions de CO2, mais l'empreinte carbone de la France, c'est-à-dire ce que les Français consomment en incluant le contenu en carbone des importations, est tout à fait considérable. Elle est presque du double de ce qui est véritablement recensé, donc on n'est pas du tout des modèles en la matière. Il faut donc que le monde des adultes comprenne qu'on peut à la fois répondre à « ici et maintenant, fais ce que je veux » et en même temps, oui, comprendre que cette demande sera toujours insuffisante par rapport à une jeunesse qui veut un autre monde pour le 21e siècle.
Fossé générationnel, sans doute souligné, cristallisé cette semaine, particulièrement déplaisant en effet sans doute pour le président de la République française, Christine Ockrent, que à l'international, contrairement au niveau national, il passe souvent comme celui qui précisément prend la tête du combat écologique. On se souvient à l'international qu'il était celui qui avait tenté de ramener Donald Trump dans l'accord de Paris, c'était en juin 2018, avec sa première grande formule fameuse « Make our planet great again ». Il avait même vu décerner un titre en la matière. Donc très déplaisant pour lui, j'imagine, ce décalage cette semaine.
Oui, mais comme l'a très bien dit Daniel, il y a une complémentarité dans ces deux rôles. Il y a l'homme d'État, le responsable politique, et puis il y a cette jeune fille. Et le fait que ce soit une fille, et qu'elle soit jeune, et ce qui induit toujours, à tort ou à raison, une idée de pureté, et qu'elle ait la foi, elle a une foi. Cette jeune fille. Et elle lance un cri. Et c'est le cri qui dérange. Mais le cri est fait pour ça. Et donc je crois que c'est les réactions parfois caricaturales des gens plus âgés.
Laurent Joprin a écrit dans Libération que Greta avait ce talent de faire sortir de leur trou tous les réacs de la Terre.
Oui, enfin ça c'est du Joprin. C'est d'ailleurs assez bien dit. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est la complémentarité, me semble-t-il, entre Macron et Greta. Il faut aussi souligner, comme l'a dit Daniel, que nous ne sommes pas du tout vertueux. Et là aussi, ça nous ramène à Chirac. On dit qu'on fait, mais on ne fait pas. Enfin, on ne fait pas assez. Et d'ailleurs, j'ai été frappée de remarquer que le même jour à New York, où le président de la République, à juste titre, dans un très beau discours à la tribune des Nations Unies, faisait état des priorités qu'il fallait assigner à la planète, la compagnie française Total annonçait à New York l'augmentation des dividendes de ses actionnaires. Le même jour, à New York. Et donc, on voit bien, et c'est une compagnie qui est essentielle, et surtout, et on va en parler avec ce qui se passe dans le Golfe Persique, mais on voit bien la contradiction absolue de notre système, et même de l'idée que nous nous faisons, du rôle que nous pouvons assumer sur la scène internationale. Mais encore une fois, moi je ne vois pas du tout de contradiction entre Macron et Greta. Ce sont deux figures absolument complémentaires et je dirais absolument nécessaires, d'une forme de prise de conscience. Il y a la prise de conscience, il y a le cri. Et puis comment on fait ? Et comment on fait ? Ce n'est vraiment pas simple, parce que cette même génération, elle est tout jeune, qui sont quand même accros à leur téléphone portable, il faudrait qu'ils se rendent compte que l'intelligence artificielle et les portables, ça consomme énormément et ça émet énormément de CO2.
En même temps, c'est vrai, Thomas Gomard, qu'à l'issue de cette semaine, on a uniquement, en tout cas en France, ces deux images qui se superposent ou qui se contredisent, celle de Greta et celle du président de la République, ce qui peut donner à penser qu'il ne s'est rien passé sur ce sujet fondamental du climat à l'occasion de cette Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce le cas ?
C'est un sommet qui est décevant, en sachant qu'en même temps, la date importante, c'est 2020 pour que les États reprennent des engagements dans le prolongement de l'accord de Paris 2015. Mais il y a une déception qui est manifeste parce que il n'y a pas eu de grande annonce de la part des États. Il y a eu des annonces effectivement d'un certain nombre d'entreprises, notamment qui rentrent dans cette logique de coalition. Mais c'est tout à fait insuffisant par rapport à la trajectoire qui se dessine, qui est une trajectoire de l'ordre de 3 degrés, en moyenne, hein, donc ça veut dire des effets tout à fait considérables. Pour en revenir aux deux figures que vous décriviez, moi ce qui me frappe, bon, c'est le débat habituel entre messager et message. Ce qui est assez frappant dans le cas de Greta Thunberg, c'est tout de même, ce n'est pas un précédent en fait. Hein. Libération a publié un entretien que j'ai trouvé tout à fait passionnant avec Séverine Cully-Suzuki, qui a 12 ans, en 92, au sommet de la Terre de Rio, donc il y a 27 ans, avait au fond aussi eu un impact médiatique très fort. Et donc il y a là aussi une sorte de rappel de une génération plus tard, la dégradation au fond hein, de nos écosystèmes. Et de ce point de vue-là, moi je dois dire que effectivement la focalisation sur cette jeune fille me paraît tout à fait excessive. Les attaques qu'elle subit me semblent tout à fait injustifiées au regard du discours qu'elle porte, même si elle le porte évidemment avec beaucoup de maladresse, et que c'est effectivement, à mon sens, un contre-pied pour la diplomatie française, dans le sens où cette semaine, c'est elle qui a attiré l'attention médiatique, au détriment effectivement d'une diplomatie française qui essaie de faire du climat un peu sa marque de fabrique. Mais on sent bien aussi, à l'issue de cette semaine, à quel point l'absence de leadership aujourd'hui dans le domaine climatique est préjudiciable aux efforts qu'il faudrait collectivement consentir.
Avec en effet des attitudes, Monique Kantosperber, qu'on ne saisit pas toujours. Par exemple, on sait aujourd'hui que la Chine n'a pas quitté les accords de Paris, mais laisse s'envoler ses émissions de gaz à effet de serre. Je crois qu'elles stagnaient ces dernières années, qu'elles repartent à la hausse, plus 4% en 2018, c'était plus 2% en 2017. Au final, on n'aura pas parlé de ces sujets-là cette semaine.
On en aura parlé un peu quand même. Il y a eu plusieurs résolutions importantes qui ont été adoptées lors de ce sommet de l'ONU. La Russie, par exemple, a ratifié l'accord climat. Il y a eu des choses positives. Mais je voudrais revenir à ce face-à-face que vous avez évoqué entre cette jeune fille et le président de la République, pas en lui-même, mais pour ceux qui l'évoquent. Greta, et mes conclusions sont exactement les mêmes que celles qui ont été vraiment très brillamment exposées. Mon analyse est un petit peu différente. Greta Thunberg, je la vois comme une voix d'alerte, mais qui est insupportable à cause de son caractère monomaniaque. Elle ne dit qu'une chose, une chose simple, elle le répète constamment, elle le martèle. Et d'une certaine manière, elle ne cesse d'interpeller, vous savez, vous êtes d'accord, mais maintenant agissez, faites quelque chose, or je vois que vous ne faites rien. En ce sens, ce n'est pas une pitié, comme on le dit parfois. La pitié ne répondait qu'aux questions qu'on lui posait, la pitié de Dev, en tout cas. Bon. Ce n'est pas non plus une Cassandre, puisqu'on sait que Cassandre, après avoir reçu le don de prophétie d'Apollo, s'est refusée à lui. Et pour la punir, Apollon l'a frappée de la malédiction de n'être jamais cru en ses prévisions, c'est-à-dire en ses prédictions. Personne ne prend au sérieux ce que dit Cassandre. Or, tout le monde prend au sérieux ce que dit Greta Thunberg. Donc, ce n'est pas du tout une Cassandre. Mais ce qu'elle a d'extrêmement gênant, c'est qu'elle le répète. Elle ne lâche pas le morceau, si on peut dire. Elle le répète et elle le répète. Alors, les adultes, face à cela, d'abord, adorent se faire un petit peu bousculer par les enfants. Donc, on réagit de manière extrêmement positive. Et puis ensuite, ils ont eu envie de dire, et c'est d'une certaine façon ce qu'a exprimé notre président de la République, bon, maintenant, ça suffit, on a compris, c'est plus votre affaire, nous, on s'occupe des solutions. Aller nettoyer les plages, aller défiler en Pologne. Mais ce qui me paraît tout à fait saisissant dans cette confrontation, et là ça touche à un enjeu philosophique essentiel, c'est que l'enfant n'a pas de sens historique forcément, puisqu'il n'a pas vécu encore, ou il ne connaît pas assez ce qui s'est passé dans les siècles qui nous ont précédés. Donc l'enfant croit en la vertu des bonnes intentions. L'enfant ignore que parfois le maximalisme du bien et de l'action peut provoquer des résultats complètement contraires à ce qu'on espérait. L'enfant ne sait pas qu'un changement brutal de mode de vie, en général, affecte les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui, d'une certaine manière, ont le moins de capacité de s'adapter à ça, peut créer une instabilité sociale qui désintégrerait toutes les avancées qui auraient pu être réalisées en matière de climat. L'enfant ignore aussi que quand on contraint les préférences des individus, eh bien, on atteint leur liberté, et que la liberté est une valeur extrêmement chère, avec laquelle il faut prendre beaucoup de précautions. L'enfant ignore aussi que lorsqu'on se met à imposer des mesures qui nécessairement seraient des mesures discrétionnaires, parce qu'elles iraient à l'encontre des préférences immédiates des individus, eh bien, on perturbe les règles du jeu démocratique. On ne consulte pas, on ne peut plus se réclamer d'une légitimité qui est données, en tout cas pas simplement forfaitairement, mais dans le détail. C'est-à-dire que l'enfant, c'est le présent. Et sur le présent, tout le monde est d'accord. Le président Macron aussi, mais il a peur pour l'avenir. Et c'est ainsi qu'il est dans cette posture étrange de taxer d'immaturité les adultes. C'est quand même assez particulier. Alors, si vous voulez, moi aussi, je pense pour ces raisons que dans cette monomanie, ce rappel incessant, on ne vous lâchera pas, on vous laissera pas détourner le regard. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement positif, même si c'est très désagréable, surtout dans la durée, qu'il faut absolument réfléchir à ce que pourrait être une complémentarité, c'est-à-dire concrètement, un mode d'incitation des incitations à changer les préférences qui ne soient pas dommageables pour les plus pauvres, des procédures démocratiques qui permettent en quelque sorte dans le cadre de notre constitution de préserver l'intégrité et la réalité de changements très profonds. On a parlé d'une loi de programmation, en quelque sorte, qui dépasserait les changements de gouvernement et qui obligerait de manière fondamentale. Bref, il me semble qu'il y a un gigantesque travail intellectuel pour forger les outils qui permettent de trouver des solutions qui assurent cette complémentarité, mais toujours sous l'injonction « faites quelque chose qui empêche l'indifférence et qui empêche la nonchalance à l'égard de ces questions. »
On a donc besoin de ces enfants obsessionnels dans la période que nous vivons. Merci Monique Cotto-Sperber. Autre sujet, bien sûr, au cœur, au centre de cette 74e Assemblée Générale des Nations Unies, la crise iranienne toujours et le suspense entretenu par la diplomatie française qui jusqu'au bout a fait mine de croire possible une rencontre entre Hassan Rouhani et Donald Trump, en vain. On a vite compris en écoutant le dirigeant iranien s'exprimer à la tribune que l'apaisement des tensions dans le Golfe n'était pas pour demain, 2 semaines après l'attaque de puits de pétrole à l'est de l'Arabie Saoudite, que désormais les pays occidentaux, c'est-à-dire Paris, Berlin, Londres et pas seulement les États-Unis, imputent à l'Iran. Quelle est donc maintenant la stratégie de Téhéran ?
Au nom de ma nation, de mon État, j'aimerais annoncer que notre réponse à toute offre de négociation alors que des sanctions nous sont imposées est négative. Le gouvernement et le peuple iranien sont demeurés fermes face aux sanctions les plus dures de ces 18 derniers mois et nous ne négocierons jamais avec un ennemi qui entend faire plier l'Iran en brandissant l'arme de la pauvreté, des pressions et de la sanction. Pour que des pourparlers puissent être engagés, il faut respecter les accords.
Voilà, le président iranien Hassan Rouhani a donc dit non mercredi à l'ONU à toute rencontre avec son homologue américain Donald Trump. Vous n'avez pas été surpris, j'imagine, Thomas Gomard. Est-ce que vous croyez de toute façon possible un relâchement des sanctions américaines ?
Alors, relâchement des sanctions, certainement pas. C'est pas surprenant, effectivement, puisque le président Rouhani a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'était pas favorable à avoir une photo avec Donald Trump, indiquant que si l'administration Trump le souhaitait réellement, il pouvait utiliser Photoshop, ce qui montre bien
l'ironie redoutable de Hassan Rouhani sur ce qu'est, en effet, ce que sont aujourd'hui les ressorts de la diplomatie trumpienne.
Absolument. Mais ce qui est quand même très frappant, si vous voulez, c'est à quel point la stratégie de tension de l'Iran produit des effets. Et je pense et je crains que, du coup, les Iraniens soient très tentés de pousser leur avantage. Quand on regarde les choses de manière clinique, ils viennent de faire une démonstration directe ou indirecte en termes militaires tout à fait préoccupante avec cette attaque de drones qui montre à quel point l'Arabie Saoudite, troisième dépense militaire mondiale, vient de subir une humiliation terrible puisqu'elle est au fond incapable de défendre ses infrastructures pétrolières. Téhéran est aujourd'hui exerce une influence très forte sur quatre capitales de la région, Beyrouth, Damas, Sanaa et Bagdad, montre que le trafic du détroit d'Ormuz dépend aussi de son bon vouloir et au fond ne répond pas aux tentatives de médiation pour essayer d'aller vers de la désescalade, ce qui était l'ambition de la diplomatie française avec cette posture de médiateur. Et c'est assez préoccupant dans la mesure où, à mon avis, ce que les Iraniens ont très bien compris, c'est qu'ils font preuve d'une hyperactivité lorsque les États-Unis, paradoxalement, font preuve de beaucoup de passivité. Que les États-Unis voudraient se désengager du Moyen-Orient, que Donald Trump ne veut pas aller à la guerre, et le fait que, je crois que vous y avez consacré une mission d'ailleurs, soit séparé de John Bolton est un indicateur. Et ça, ça ouvre un espace que l'Iran occupe de manière extrêmement active. Et au fond, aujourd'hui, l'Iran a réussi aussi à diviser les signataires du JCPOA, progresse en matière balistique, progresse, comme je l'indiquais, en matière d'influence régionale. Pourquoi s'arrêter? C'est-à-dire que la résilience du régime est telle que, à mon avis, une accentuation des sanctions, ne fera pas changer de cap. Nous allons avoir des élections en Iran au mois de février, avec toute cette complexité du système iranien. Donc, de manière, je dirais, conclusive, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le fait que aujourd'hui, c'est l'Iran qui semble avoir pris la main, et qu'il ne faut pas oublier aussi à quel point ce régime a tendance à toujours pousser son avantage, à se rappeler aussi que voilà, nous avons en France déjoué un attentat en juin 2018 qui était piloté depuis Téhéran, et que donc on a un acteur qui reste fondamentalement dans une logique de défense de sa sécurité, de défense existentielle de sa sécurité, alors que ce n'est pas le cas pour les États-Unis et pour les Européens.
L'Iran mène la danse désormais, dites-vous, Thomas Gomard, alors même qu'un certain Mike Pompeo continue de dire que Washington souhaite une solution pacifique à cette crise, alors même que certains évoquent la possibilité d'un nouvel accord plus global qui peut-être ferait son chemin, cet accord qui peut-être relancerait la possibilité de relâcher quelque peu les sanctions. Christine O'Krent, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que tout est bloqué aujourd'hui, que c'est l'Iran qui mène la danse et qu'on ira toujours plus loin dans la tension dans cette région du monde?
Mais comme l'a très bien dit Thomas Gomard, d'abord je crois que les Occidentaux et surtout les Américains et d'abord Donald Trump méconnaissent le fait que les Iraniens jouent aux échecs depuis le 6e siècle. C'est une culture extraordinairement sophistiquée, avec un sens tactique remarquable, et on le voit ces temps-ci. Thomas rappelait l'attaque spectaculaire le 14 septembre contre deux centres névralgiques en Arabie Saoudite. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que Trump, comme d'habitude, à la menace brutale et la riposte extraordinairement faiblarde. Donc oui, les États-Unis ont encore envoyé des personnels militaires en petit nombre et des missiles balistiques en Arabie Saoudite. On voit que Mohamed Ben Salman, le prince héritier, ne sait absolument pas quoi faire. Alors que il est enlisé au Yémen en dépit d'une aviation ultra sophistiquée qui ne fait que bombarder les civils. Donc les trois acteurs principaux, c'est-à-dire Trump, Mohamed Ben Salman, et il ne faut pas oublier Benjamin Netanyahou, parce que Israël a été de loin, sur le plan stratégique, l'ennemi le plus efficace de l'Iran, avec notamment des cyberattaques qui remontent à plusieurs années déjà, et Netanyahou lui-même est dans une posture difficile, même si là, bien évidemment, quelle que soit la solution politique en Israël, l'objectif numéro un reste de résister à l'Iran nucléaire. Mais on voit bien que oui, l'Iran est en ce moment en position de force, et on voit mal dans ces conflits qui sont de plus en plus asymétriques. Parce que l'attaque de ces drones, les drones coûtent, d'après ce que j'ai lu, mais je parle sous le contrôle de Thomas en particulier, 15 000 euros pièce. Alors certes, ils étaient pour certains équipés de missiles, mais on voit l'Arabie Saoudite surarmée d'un côté et l'Iran dans de grandes difficultés économiques avec une population qui est véritablement étranglée par les sanctions américaines. Et c'est néanmoins l'Iran qui mène la danse. Et donc là, on voit de plus en plus ce monde chaotique où les règles du jeu traditionnelles ne sont plus opératoires.
En quoi d'ailleurs, Thomas Gomard, est-ce que cela modifie l'équilibre de la région? Le fait que l'Arabie Saoudite et les Émirats, d'une certaine manière, ces derniers jours, ont pris conscience que les États-Unis ne les protégeaient plus, ou en tout cas pas comme auparavant?
Bon, d'abord, il y a un élément peut-être pas très visible, mais à mon avis important, c'est le décalage de plus en plus fort entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène sur... comme Christine vient de l'indiquer aussi sur l'évolution de MBS qui est assez préoccupant parce que la tournure prise par son pouvoir personnel et surtout le fait qu'il soit en situation d'échec militaire pose la question tout simplement aussi de sa propre stabilité. Ça, je pense que ça n'a pas du tout échappé aux Émiratis. Sur ce que ça révèle, c'est aussi le fait que, pour dire les choses peut-être un peu brutalement, les Saoudiens ne savent pas se battre alors que les Iraniens se battent depuis 79. Et que donc il y a là aussi le fait d'avoir un pays qui est structurellement construit sur sa politique de sécurité et sa politique militaire.
Et qui a des alliés dans la région.
Voilà, qui a des alliés dans la région et qui est aussi en train, entre ce qu'on appelle le courant réformateur, les gens autour de Zarif, etc., qui ne cessent de négocier, qui présentent le visage aimable de l'Iran, et puis les forces beaucoup plus dures. Évidemment, la situation actuelle encourage les forces les plus dures. Donc je pense que sur un plan général, ce qui est effectivement préoccupant, c'est ces phénomènes d'asymétrie. Parce que on voit qu'on a des développements de technologies militaires beaucoup plus rapides qu'on s'attendait, et ce qui veut dire que ça a été fait une fois, donc ça peut être refait et ailleurs. Et donc ça crée effectivement, en particulier pour les Occidentaux, une remise assez fondamentale de leur conception des rapports de force militaire dans la région.
Daniel Cohen, l'Iran fait de la stratégie, mais combien de temps l'Iran a les moyens de faire de la stratégie d'un point de vue économique? Thomas Gomard l'a rappelé à l'instant, les Iraniens sont étranglés aujourd'hui par les sanctions. Elles ont sans doute été amplifiées encore ces derniers jours. Certains disent qu'en fait, les Iraniens font le pari qu'il n'y aura qu'un seul mandat Trump et que s'il y en a un second, ils ne peuvent pas tenir au-delà en termes de réserve.
C'est exactement le point de la question. Trump est en train de plonger dans l'histoire. Il se croyait un nouveau Reagan. Il est en train de se révéler un nouveau Carter, c'est-à-dire un faux dur. Il roule comme ça son sabre en bois et il n'agit pas. Et ça n'a échappé, enfin Christine le disait aussi, ça n'a échappé à personne. C'est-à-dire que un drone à 15 000 dollars plus détruit la moitié des capacités de production pétrolière de l'Arabie Saoudite. La moitié a été endommagée d'une seule frappe. Il dénonce l'Iran, il dit voilà, nous avons les preuves que, et il ne se passe rien. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce bonhomme qui roule des moulinets comme ça, incapable d'agir, après avoir suspendu à la dernière minute une frappe quand c'était un drone américain.
Incapable car ne pensant qu'à des enjeux de politique intérieure.
Parce qu'il pense, et c'est sa façon de penser, il a en tête The Art of the Deal, c'est le titre de ce livre. Il veut un big deal. En fait, c'est ça qu'il veut. Il veut pas la guerre, il veut, il l'a montré avec la Corée, il veut arriver au point où il peut dire, voilà, j'ai amené un deal. Mais si la partie en face comprend que ce qu'il veut, c'est un deal, et qu'il n'a absolument pas les moyens psychologiques ou géopolitiques de l'obtenir par la force, alors tout change. Ce qu'on est en train de dire de l'Iran vaut, à mon avis, aussi pour la Chine. La Chine est en train de se rendre compte que ce bonhomme menace, etc. Il a suspendu les mesures qu'il avait prises dans un tout autre domaine, des tarifs douaniers sur les produits importation chinoise. Il les a suspendus jusqu'au 15 décembre pour permettre aux enfants américains d'acheter quand même bon marché des jouets chinois. Et la question, je crois, que tout le monde se pose, c'est est-ce que la Chine, l'Iran et peut-être la Corée ont envie de sauver sauver Trump? Il veut un deal, mais on ne va pas vous le donner. Et vous allez aller devant vos électeurs
comme vous êtes, nu, sans accord, incapable de produire l'ordre que vous annoncez. Et ça, ça peut couler Trump pendant la campagne. Et je pense que maintenant, les Chinois se disent, au fond, il n'y a qu'un an à tenir avant d'être débarrassé de ce bonhomme. Donc très bien, on va subir les tarifs douaniers. Aucune importance. Mon pote, c'est toi qui vas perdre les élections. Je pense que c'est un raisonnement exactement de même nature. Mmh. Iran dit, tu veux une photo? Mais tu l'auras pas. Tu retourneras à Washington sans photo et on va voir ce que tu expliques à tes électeurs. Évidemment, il y a toujours la tentation que dans les cordes, ils disent, ah bah alors vous voulez la guerre et vas-y. Je pense que c'est un peu trop tard pour lui maintenant. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est...
Et c'est peut-être un peu trop tôt d'enterrer Trump. Dont les chances de réélection demeurent.
Ouais. Et on va préciser que le chef de la diplomatie...
Indépendamment de ça, parce que ça, je pense que ça lui nuit, en réalité, il me semble. Enfin,
bon, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui a annoncé mercredi des sanctions, en effet, contre des sociétés chinoises accusées, je cite, de transporter sciemment du pétrole depuis l'Iran en violation de l'embargo américain. Monique Cantos-Perber, en guise de conclusion sur cette actualité.
Et je pense, en effet, en accord avec ce qui vient d'être dit, que le face-à-face... Trump, Iran, pour l'instant, tourne véritablement en faveur de l'Iran. La stratégie de pression maximale que défendait Donald Trump est dans une impasse. Elle est totalement enlisée pour différentes raisons. Parce qu'il n'arrivera jamais à réduire à 0% les exportations de pétrole iranien. Parce qu'il ne peut plus tellement continuer dans la voie des sanctions, au-delà de celles qui viennent d'être annoncées. Et puis surtout parce qu'il est clair qu'il ne veut pas faire la guerre et qu'il pense à sa réélection. Il est impossible pour lui de déclarer la guerre à l'Iran avant 2020, bien évidemment. Donc il est clair qu'il n'a absolument pas prévu le coup d'après, comme on dit dans des jeux de position. Et il n'a pas encore véritablement pris conscience du fait que la politique des sanctions et de pression maximale ne marche pas. Donc d'une certaine manière, il n'y a plus tellement d'opportunités, de possibilités.
Il n'y a plus d'options.
Alors du côté de l'Iran, c'est assez intéressant ce qui se passe, enfin dans l'analyse que j'en fais avec un certain recul. D'abord, l'Iran est dans une situation difficile. Hein. La situation économique est effroyable. La monnaie iranienne s'est considérablement dévaluée. Il y a une inflation, la population souffre beaucoup. Mais l'Iran, dans ce genre de situation, réagit en effet comme le faible réagit face au fort, c'est-à-dire par une sorte de mise en scène et même une réalité de détermination, de résolution. Il y a eu les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, il y a eu le navire anglais, enfin en tout cas, qui a été arraisonné. Il y a aussi la présence de l'Iran en Irak, en Syrie, au Liban. Les frappes israéliennes en général résultent d'informations extrêmement précises qu'ont les services secrets israéliens. Mais à côté de cela, ce qui me frappe est que l'Iran essaie de se faire des alliés. Et là, il y a eu l'accord signé avec la Russie au mois de juillet. Il y a cette étrange proposition que je n'arrive pas du tout à interpréter, cette coalition de l'espoir qui est adressée à tous les pays du Golfe. Donc j'ai l'impression quand même, je suis un petit peu inquiète, je dois vous avouer, face à la situation actuelle. Est-ce que l'Iran ira plus loin et dépassera la ligne qu'il ne faut pas dépasser? Mais je ne peux pas imaginer, même si les choses restent en l'état, que les États-Unis ne fassent pas quelque chose. Et ça peut avoir des conséquences irréversibles. Alors les États-Unis, bien sûr, frapperont des cibles latérales, des installations, des plateformes pétrolières, des choses comme ça.
Et bien, nous resterons sur cette inquiétude. Mais il y a pronostic d'une intervention américaine qui semble laisser sceptique. Thomas Govard, merci infiniment à tous les quatre d'avoir été nos visiteurs du dimanche. Merci à Marine Beccarelli qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Julien Calvas. Tout de suite, les bonnes choses de Caroline Brouet qui nous propose aujourd'hui 80 des aliments les plus dégoûtants du monde. Bienvenue au musée du dégoût, idéal pour tous ceux qui détestent le déjeuner du dimanche. Bon appétit quand même. Et quant à nous, on se retrouve dans ce studio la semaine prochaine, même endroit, même heure.